Bonjour. Nous vous proposons ce jour la première d'une série d'émissions consacrées à Marcel Proust, un vieux projet radiophonique que nous avions en tête depuis fort longtemps, sans avoir eu, au fil de ce temps, une idée de la forme à lui donner. L'objectif n'est pas de vous donner une lecture intégrale des 2000 pages de La recherche du temps perdu. Il n'est pas non plus de disserter sur l'œuvre de Proust, ce qui se fait beaucoup et s'écrit encore plus. Non, l'objectif sera de vous proposer quelque chose de l'univers de Proust à travers de courts extraits de son œuvre, formant chacun une petite entité thématique en soi. Entité qui invite à réfléchir pour vous-même, ce que vous faciliteront les pauses musicales en alternance avec les mots de Proust. Un partenaire, comédien et chanteur de talent, passionné lui aussi par cette aventure radiophonique, sur qui va reposer cette réalisation, est André Bonhomme, que je remercie grandement d'avoir bien voulu accepter que nous nous lancions ensemble dans ce projet. Il est évident que cette projection dans l'univers de Proust est surtout destinée à vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous y plonger. Puisque ce qui est la spécificité de cette œuvre, et que chaque lecteur aille à la rencontre de lui-même à partir des mots de l'auteur. C'est le livre de votre vie que Proust a écrit, en formalisant le ressenti qui nous était resté informulable de notre vécu. Bonne écoute.
Mais pour en revenir à mon livre, je pensais à ceux qui le liraient, à mes lecteurs, car ils ne seraient pas, selon moi, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d'eux-mêmes. Mon livre n'étant qu'une sorte de ces vers grossissants, comme ceux que tendait à un acheteur l'opticien de Combray. Mon livre, grâce auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes. Le paysage devint accidenté, abrupt. Le train s'arrêta à une petite gare entre deux montagnes. On ne voyait au fond de la gorge, au bord du torrent, qu'une maison de garde enfoncée dans l'eau qui coulait au ras des fenêtres. Si un être peut être le produit d'un sol dont on goûte en lui le charme particulier, plus encore que la paysanne que j'avais tant désiré voir apparaître quand j'errais seul du côté de mes églises, dans les bois de Roussainville, ce devait être la grande fille que je vis sortir de cette maison, et, sur le sentier qui illuminait obliquement le soleil levant, venir vers la gare en portant une jarre de lait. Dans la vallée à qui ces hauteurs cachaient le reste du monde, elle ne devait jamais revoir personne que dans ces trains qui ne s'arrêtaient qu'un instant. Elle longea les wagons, offrant du café au lait à quelques voyageurs réveillés. Empourprés des reflets du matin, son visage était plus rose que le ciel. Je ressentis devant elle ce désir de vivre qui renaît en nous chaque fois que nous prenons de nouveau conscience de la beauté et du bonheur. Nous oublions toujours qu'ils sont individuels et leur substituant dans notre esprit un type de convention que nous formons en faisant une sorte de moyenne entre les différents visages qui nous ont plu, entre les plaisirs que nous avons connus. Nous n'avons que des images abstraites qui sont languissantes et fades, parce qu'il leur manque précisément ce caractère d'une chose nouvelle, différente de ce que nous avons connu, ce caractère qui est propre à la beauté et au bonheur. Et nous portons sur la vie un jugement pessimiste et que nous supposons juste, car nous avons cru y faire entrer en ligne de compte le bonheur et la beauté, quand nous les avons omis et remplacés par des synthèses où, deux, il n'y a pas un seul atome. C'est ainsi que baille d'avance d'ennui un lettré à qui on parle d'un nouveau beau livre, parce qu'il imagine une sorte de composé de tous les beaux livres qu'il a lus, tandis qu'un beau livre est particulier, imprévisible, et n'est pas fait de la somme de tous les chefs-d'œuvre précédents, mais de quelque chose que s'être parfaitement assimilé cette somme ne suffit nullement à faire trouver, car c'est justement en dehors d'elle. Je ressentis devant elle ce désir de vivre qui renaît en nous chaque fois que nous prenons de nouveau conscience de la beauté et du bonheur. Nous oublions toujours qu'ils sont individuels et leur substituant dans notre esprit un type de convention que nous formons en faisant une sorte de moyenne entre les différents visages qui nous ont plu, entre les plaisirs que nous avons connus. Nous n'avons que des images abstraites qui sont languissantes et fades, parce qu'il leur manque précisément ce caractère d'une chose nouvelle, différente de ce que nous avons connu, ce caractère qui est propre à la beauté et au bonheur. Et nous portons sur la vie un jugement pessimiste et que nous supposons juste, car nous avons cru y faire entrer en ligne de compte le bonheur et la beauté, quand nous les avons omis et remplacés par des synthèses où, deux, il n'y a pas un seul atome. Thank you. l'idée d'un art populaire comme d'un art patriotique, si même elle n'avait pas été dangereuse, me semblait ridicule. S'il s'agissait de se rendre accessible au peuple en sacrifiant les raffinements de la forme, bon pour les oisifs, j'avais assez fréquenté de gens du monde pour savoir que ce sont eux les véritables illettrés et non les ouvriers électriciens. À cet égard, un art populaire par la forme eût été destiné plutôt aux membres du jockey qu'à ceux de la Confédération Générale du Travail. Quant au sujet, les romans populaires ennuient autant les gens du peuple que les enfants ces livres qui sont écrits pour eux. On cherche à se dépayser en lisant. Et les ouvriers sont aussi curieux des princes que les princes des ouvriers. Dès le début de la guerre, M. Barrès avait dit que l'artiste, en l'espèce Titien, doit avant tout servir la gloire de sa patrie. Mais il ne peut la servir qu'en étant artiste, c'est-à-dire qu'à condition, au moment où il étudie ses lois, institue ses expériences et fait ses découvertes, aussi délicates que celles de la science, de ne pas penser à autre chose, fût-ce à la patrie, qu'à la vérité qui est devant lui. N'imitons pas les révolutionnaires qui, par civisme, méprisaient, s'ils ne les détruisaient pas, les œuvres de Watteau et de Latour, peintres qui honorent davantage la France que tous ceux de la Révolution. L'anatomie n'est peut-être pas ce que choisirait un cœur tendre si l'on avait le choix. Ce n'est pas la bonté de son cœur vertueux, laquelle était fort grande, qui a fait écrire à Colerdo de Laclos les liaisons dangereuses, ni son goût pour la bourgeoisie petite ou grande, qui a fait choisir à Flaubert comme sujet ceux de Madame Bovary et de l'éducation sentimentale. Certains disaient que l'art d'une époque de hâte serait bref, comme ceux qui prédisaient avant la guerre qu'elle serait courte. Le chemin de fer devait ainsi tuer la contemplation. Il était vain de regretter le temps des diligences. Mais l'automobile remplit leur fonction et arrête à nouveau les touristes vers les églises abandonnées.
Avec sa robe et ses fleurs, elle ici redevint poussière. Et son âme en parlait ailleurs, renaquit en chaude lumière. Mais un léger lien fragile, dont la mort brisée doucement, encerclait cette hampe débile d'impérissable diamant. En signe d'aile à cette place parmi
une image offerte par la vie, nous apportait en réalité à ce moment-là des sensations multiples et différentes. La vue, par exemple, de la couverture d'un livre déjà lu a tissé dans les caractères de son titre les rayons de lune d'une lointaine nuit d'été. Le goût du café au lait matinal nous apporte cette vague espérance d'un beau temps qui jadis si souvent, pendant que nous le buvions dans un bol de porcelaine blanche, crémeuse et plissée, qui semblait du lait durci, quand la journée était encore intacte et pleine, se mit à nous sourire dans la claire incertitude du petit jour. Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats. Ce que nous appelons la réalité est un certain rapport entre ces sensations et ces souvenirs qui nous entourent simultanément, rapport que supprime une simple vision cinématographique, laquelle s'éloigne par là d'autant plus du vrai qu'elle prétend se borner à lui. Rapport unique que l'écrivain doit retrouver pour en enchaîner à jamais dans sa phrase les deux termes différents. On peut faire se succéder indéfiniment dans une description les objets qui figuraient dans le lieu décrit. La vérité ne commencera qu'au moment où l'écrivain prendra deux objets différents, posera leur rapport, analogue dans le monde de l'art à celui qu'est le rapport unique de la loi causale dans le monde de la science, et les enfermera dans les anneaux nécessaires d'un beau style. Même, ainsi que la vie, quand, en rapprochant une qualité commune à deux sensations, il dégagera leur essence commune, en les réunissant l'une et l'autre pour les soustraire aux contingences du temps dans une métaphore. La nature ne m'avait pas mis elle-même à ce point de vue sur la voie de l'art. N'était-elle pas commencement d'art elle-même, elle qui ne m'avait permis de connaître souvent la beauté d'une chose que dans une autre, midi à Combray que dans le bruit de ses cloches, les matinées de Doncières que dans les hoquets de notre calorifère à eau. Le rapport peut être peu intéressant, des objets médiocres, le style mauvais. Mais tant qu'il n'y a pas eu cela, il n'y a rien.
Thank you.
Mais il y a plus. Si la réalité était cette espèce de déchet de l'expérience, à peu près identique pour chacun, parce que quand nous disons un mauvais temps, une guerre, une station de voiture, un restaurant éclairé, un jardin en fleurs, tout le monde sait ce que nous voulons dire. Si la réalité était cela, sans doute une sorte de film cinématographique de ces choses suffirait, et le style, la littérature qui s'écarterait de leurs simples données, serait un hors-d'œuvre artificiel. Mais était-ce bien cela, la réalité? Si j'essayais de me rendre compte de ce qui se passe en effet au moment où une chose nous fait une certaine impression, soit comme ce jour où, en passant sur le pont de la Vivonne, l'ombre d'un nuage sur l'eau m'avait fait crier « Zut alors !» en sautant de joie. Soit qu'écoutant une phrase de Bergotte, tout ce que j'eusse vu de mon impression, c'est ceci qui ne lui convient pas spécialement. C'est admirable. Soit qu'irrité d'un mauvais procédé, Bloch prononça ces mots qui ne convenait pas du tout à une aventure si vulgaire. Qu'on agisse ainsi, je trouve cela tout de même fantastique. Soit, quand flatté d'être bien reçu chez les Guermantes, et d'ailleurs un peu grisé par leur vin, je ne pouvais m'empêcher de dire à mi-voix, seul, en les quittant, ce sont tout de même des êtres exquis avec qui il serait doux de passer la vie. Je m'apercevais que ce livre essentiel, le seul livre vrai, un grand écrivain n'a pas dans le sens courant à l'inventer, puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. Or, si, quand il s'agit du langage inexact de l'amour-propre, par exemple, le redressement de l'oblique discours intérieur, qui va s'éloignant de plus en plus de l'impression première et centrale, jusqu'à ce qu'il se confonde avec la droite qui aurait dû partir de l'impression. Si ce redressement est chose malaisée contre quoi bout de notre paresse, il est d'autres cas. Celui où il s'agit de l'amour, par exemple, où ce même redressement devient douloureux. Toutes nos feintes indifférences, toute notre indignation contre ces mensonges si naturels, si semblables à ceux que nous pratiquons nous-mêmes, en un mot, tout ce que nous n'avons cessé, chaque fois que nous étions malheureux ou trahis, non seulement de dire à l'être aimé, mais même, en attendant de le voir, de nous dire sans fin à nous-mêmes, quelquefois à haute voix dans le silence de notre chambre, troublée par quelque... Non, vraiment, de tels procédés sont intolérables et... J'ai voulu te recevoir une dernière fois, et je ne nierai pas que cela me fasse de la peine. Ramener tout cela à la vérité ressentie, dont cela s'était tant écarté, c'est abolir tout ce à quoi nous tenions le plus, ce qui a fait seul à seul avec nous-mêmes, dans des projets fiévreux de lettres et de démarches, notre entretien passionné avec nous-mêmes. Même dans les joies artistiques, qu'on recherche pourtant en vue de l'impression qu'elles donnent, nous arrangeons le plus vite possible à laisser de côté, comme inexprimable, ce qui est précisément cette impression même, et à nous attacher à ce qui nous permet d'en éprouver le plaisir sans le connaître jusqu'au fond et de croire le communiquer à d'autres amateurs avec qui la conversation sera possible. Parce que nous leur parlerons d'une chose qui est la même pour eux et pour nous, la racine personnelle de notre propre impression étant supprimée. Dans les moments mêmes où nous sommes les spectateurs les plus désintéressés de la nature, de la société, de l'amour, de l'art lui-même, comme toute impression est double, à demi engainée dans l'objet, prolongée en nous-mêmes par une autre moitié que seule nous pourrions connaître, nous nous empressons de négliger celle-là, c'est-à-dire la seule à laquelle nous devrions nous attacher. Et nous ne tenons compte que de l'autre moitié qui, ne pouvant pas être approfondie parce qu'elle est extérieure, ne sera cause pour nous d'aucune fatigue. Le petit sillon que la vue d'une aubépine ou d'une église a creusé en nous, nous trouvons trop difficile de l'apercevoir. Mais nous rejouons la symphonie. Nous retournons voir l'église jusqu'à ce que, dans cette fuite, loin de notre propre vie, que nous n'avons pas le courage de regarder, et qui s'appelle l'érudition, nous les connaissions aussi bien, de la même manière, que le plus savant amateur de musique ou d'archéologie. Aussi, combien s'en tiennent là, qui n'extraient rien de leur impression, vieillissent inutiles et insatisfaits, comme des célibataires de l'art. Ils ont les chagrins qu'ont les vierges et les paresseux, et que la fécondité ou le travail guérirait. Ils sont plus exaltés à propos des œuvres d'art que les véritables artistes, car leur exaltation n'étant pas pour eux l'objet d'un dur labeur d'approfondissement, elle se répand au dehors, échauffe leur conversation, empourpre leur visage. Ils croient accomplir un acte en hurlant à se casser la voix « Bravo, bravo !» après l'exécution d'une œuvre qu'ils aiment. Mais ces manifestations ne les forcent pas à éclaircir la nature de leur amour. Ils ne la connaissent pas. Cependant, celui-ci, inutilisé, reflue même sur leurs conversations les plus calmes, leur fait faire de grands gestes, des grimaces, des hochements de tête quand ils parlent d'art. J'ai été à un concert où on jouait une musique qui, je vous avouerai, ne m'emballait pas. On commence le quatuor. Ramenons d'une pipe. Ça change. La figure de l'amateur à ce moment-là exprime une inquiétude anxieuse, comme s'il pensait « Mais je vois des étincelles, ça sent le roussi, il y a le feu. Tonnerre de Dieu ce que j'entends là. C'est exaspérant, c'est mal écrit. Mais c'était pastrouillant. Ce n'est pas l'œuvre de tout le monde. » Encore. Si risibles soient-ils, ne sont-ils pas tout à fait à dédaigner? Ils sont les premiers essais de la nature qui veut créer l'artiste aussi informe, aussi peu viable que ces premiers animaux qui précédèrent les espèces actuelles et qui n'étaient pas constitués pour durer. Ces amateurs velléitaires et stériles doivent nous toucher comme ces premiers appareils qui ne purent quitter la terre, mais où résidait non encore le moyen secret qui restait à découvrir, mais le désir du vol. Hé, mon vieux, ajoute l'amateur en vous prenant par le bras, moi, c'est la 8e fois que je l'entends. Et je vous jure bien que ce n'est pas la dernière. Et en effet, comme il n'assimile pas ce qui dans l'art est vraiment nourricier, ils ont tout le temps besoin de joie artistique, en proie à une boulimie qui ne les rassasie jamais. Ils vont donc applaudir longtemps de suite la même œuvre, croyant de plus en plus que leur présence réalise un devoir, un acte, comme d'autres personnes, la leur, à une séance de conseil d'administration, un enterrement. Thank you. Et maintenant je comprenais ce que c'était que la vieillesse. La vieillesse qui, de toutes les réalités, est peut-être celle dont nous gardons le plus longtemps dans la vie une notion purement abstraite, regardant les calendriers, datant nos lettres, voyant se marier nos amis, les enfants de nos amis, sans comprendre, soit par peur, soit par paresse, ce que cela signifie, jusqu'au jour où nous apercevons une silhouette inconnue, comme celle de Monsieur d'Argencourt, laquelle nous apprend que nous vivons dans un nouveau monde, jusqu'au jour où le petit-fils d'une de nos amies, jeune homme qu'instinctivement nous traiterions en camarade, sourit, comme si nous nous moquions de lui. Nous qui lui sommes apparus comme un grand-père. Je comprenais ce que signifiait la mort, l'amour, les joies de l'esprit, l'utilité de la douleur, la vocation, etc. Car si les noms avaient perdu pour moi de leur individualité, les mots me découvraient tout leur sens. La beauté des images est logée à l'arrière des choses, celle des idées à l'avant, de sorte que la première cesse de nous émerveiller quand on les a atteintes, mais qu'on ne comprend la seconde que quand on les a dépassées.
Thank you.
Ainsi se termine cette première émission d'une série au nombre indéterminé à ce jour, série d'émissions réalisées autour de l'œuvre de Marcel Proust. Elles prendront la forme d'évocations thématiques puisées dans l'œuvre de celui-ci, que nous nous autoriserons, nous aussi, à appeler tendrement et familièrement le Petit Marcel. Ces émissions seront réalisées avec la participation à la diction, mais aussi au choix des thèmes et extraits retenus, d'André Bonhomme, avec qui donc nous co-réalisons ces émissions qui nous tiennent fort à cœur à tous les deux. Cette première émission est partie à la rencontre de la vision de l'art de Marcel Proust, et plus exactement de sa vision de son propre art d'auteur, l'objectif qu'il s'est assigné avec son œuvre. Son art, son œuvre, à partir d'un certain moment, il y a mis toute sa vie. Il a tout subordonné à la réalisation de son projet, et bien entendu, en pareil cas, au final, il y a laissé sa vie, mais sans aucun remords ni regret. Un certain nombre d'extraits musicaux en relation avec les intérêts artistiques de Proust sont venus ponctuer les lectures. Il s'agit, quand je ne cite pas d'interprète spécifique, de Flora Helfège au violon et Jean Martin au piano, ainsi sur Romance sans parole de Gabriel Fauré. Puis vous avez entendu, toujours de Gabriel Fauré, sur un texte de Van Lerberg, Inscription sur le sable, chanté par Michel Carré. Puis c'est Maddy Mesplé qui, sur une musique de Reynaldo Hahn et sur un texte de Paul Verlaine, interprétait L'heure exquise. Ensuite, vous avez entendu la petite phrase de Vinteuil, dont Proust parlera souvent, interprétée par Flora Helfège, musique donc de Camille Saint-Saëns. Puis Maddy Mesplé à nouveau, sur une musique de Reynaldo Hahn et un texte de Théophile Gautier, interprété Infidélité. Ensuite, vous avez entendu un instrumental de Camille Saint-Saëns, un extrait de la sonate numéro 1, opus 75, puis un extrait de la sonate pour violon et piano, le deuxième mouvement, sonate de Claude Debussy. Ensuite, c'est Maurice Ravel qui, lui-même au piano, interprétait le morceau qu'il a composé, Les oiseaux tristes. Et pour terminer cette émission, dans ce climat de beauté et de création poétique, nous vous proposons d'écouter La mémoire et la mer de et par Léo Ferré. Notre prochaine émission proustienne sera consacrée au thème central de la recherche du temps perdu, qu'est celui du baiser du soir.
La marée, je l'ai dans le cœur qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime. te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consume, ô l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse, revient fille verte des fjords, revient violon des violonades, dans le port fanfare les corps, pour le retour des camarades. Oh, parfum rare des salants, dans le poivre feu des chersures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé, dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen, les coquillages figurants sous les sunlight cassés, liquide joue de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, Dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale d'où nous remonte peu à peu. Cette mémoire des étoiles, cette rumeur qui vient de là, sous l'arc opaque où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui me... Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère
thank you. Thank you.